Bonsoir à tous. Fin de partie pour Alexandre Benalla et Vincent Crase, les deux proches du pouvoir, filmés en train de frapper un manifestant du 1er mai, sont en garde à vue depuis ce matin et l'Élysée a décidé de licencier Benalla. L'affaire n'est pas terminée pour autant, l'opposition demande des comptes à Emmanuel Macron et la position du ministre de l'Intérieur Gérard Collomb semble très fragile ce soir. Dans un instant, les explications d'Antoine Maret et le reportage à l'Assemblée de Laura Dulieu. La grève du printemps a coûté 790 millions d'euros à la SNCF. C'est plus que le bénéfice de l'entreprise en 2017. Nous ferons le point avec la rédaction. À l'étranger, l'armée israélienne bombarde plusieurs cibles militaires dans la bande de Gaza. Il s'agirait d'une riposte à de violentes émeutes à la frontière. Marie Semelin nous appellera de Jérusalem. Emmanuel Macron s'est enfin décidé à réagir après la mise en cause de son collaborateur chargé de la sécurité. Alexandre Benalla est désormais sous le coup d'une procédure de licenciement engagée par l'Élysée. Et depuis ce matin, il est en garde à vue dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte par la justice. Garde à vue également pour son compère Vincent Crase, ce gendarme réserviste employé par La République En Marche. Le 1er mai dernier, les deux hommes ont été filmés en train de molester un manifestant place de la Contrescarpe à Paris. Antoine Maret, bonsoir.
Bonsoir.
L'affaire Benalla a été révélée par le journal Le Monde mercredi soir. Dans la foulée, Alexandre Benalla a sollicité des policiers haut placés pour avoir des informations.
Oui, qu'a-t-il demandé à ces policiers ? Très probablement des images de vidéosurveillance de la ville de Paris, puisque l'on a appris que 3 policiers ont été suspendus à titre conservatoire pour avoir extrait ces images et les avoir transmises à Alexandre Benalla. On en est donc à 2 licenciements et garde à vue et 3 suspensions, 5 personnes mises en cause. Cela semble dérisoire tant les maillons de la chaîne de responsabilité qui a conduit à ce scandale d'État semblent nombreux, surtout à la lumière des nouvelles révélations. On a ainsi appris qu'Alexandre Benalla avait participé à plusieurs services d'ordre de manifestations en plus de celui du 1er mai.
Antoine, cette affaire Benalla est susceptible de mettre en cause l'entourage d'Emmanuel Macron et plusieurs personnalités sont particulièrement exposées, à commencer par le ministre de l'Intérieur.
Effectivement, Gérard Collomb, fidèle de la première heure d'Emmanuel Macron, fait partie des fusibles potentiels. Selon nos confrères de France Inter, il aurait été au courant dès le 2 mai des agissements d'Alexandre Benalla et Vincent Crase. Il aurait ensuite transmis l'information à l'Élysée. Mais l'opposition s'interroge, qu'a-t-il dit exactement qu'a dit exactement Gérard Collomb à l'Élysée et pourquoi les policiers sont restés passifs le 1er mai face aux violences commises par les deux hommes ? Avaient-ils reçu des ordres au plus haut niveau ? Le ministre de l'Intérieur devra s'expliquer mardi devant la commission d'enquête du Sénat sur cette affaire. Autre fusible possible, le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, Patrick Strozda, a été entendu hier par la police en tant que témoin. Il avait été informé le 2 mai des violences commises par Alexandre Benalla et Vincent Crase. C'est lui qui avait décidé de leur sanction jugée désormais très légère. Se pose aussi dans cette affaire la question de la responsabilité d'Emmanuel Macron. Il était en visite officielle en Australie au moment des faits. Il en aurait été tenu informé sans avoir vu la vidéo. Que savait-il exactement de ces faits ? A-t-il lui-même couvert Alexandre Benalla ? Ou s'en est-il tout simplement remis à son directeur de cabinet ? Cela fait partie des questions que se posent ce soir les Français.
Antoine Maret, merci. Alors Gérard Collomb est-il devenu le maillon faible du gouvernement ? En tout cas, à l'Assemblée, l'opposition demande des comptes au ministre de l'Intérieur. Laura Dulieu, bonsoir.
Bonsoir.
À gauche comme à droite, on se demande dans quelle mesure Gérard Collomb était au courant des agissements d'Alexandre Benalla.
Oui, et cela ne fait guère de doute dans les rangs de l'opposition à l'Assemblée. Beaucoup appellent à la démission du ministre de l'Intérieur, à l'image du chef de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon.
Monsieur Collomb est maintenant hors d'état de commander la police, pour la raison que la police sait qu'à la première occasion, le ministre de l'Intérieur se défausse sur la hiérarchie policière de ses responsabilités politiques. Donc ils le savent, et Monsieur Collomb ne peut plus commander, on le sait bien politiquement.
Mais pour l'opposition, Gérard Collomb est loin d'être seul responsable dans ce scandale. Pour Christian Jacob, chef du groupe Les Républicains à l'Assemblée, la question de sa démission n'est qu'une façade.
Ce sera la décision du Premier ministre et du Président de la République qui, à un moment, vont trouver un fusible. Alors, on verra à quel niveau ils trouvent le fusible. Mais ce qui est assez clair aujourd'hui, c'est qu'il semble bien que le ministre de l'Intérieur ait menti devant le Sénat.
Du côté de la majorité, on fait le moins de vagues possible. Aurore Berger, porte-parole du groupe LREM à l'Assemblée.
Parce que Gérard Collomb peut évidemment rester en poste. Il est ministre de l'Intérieur, il a saisi l'IGPN, il est tout à fait dans son rôle. Il sera entendu, je crois, par la commission d'enquête dans un calendrier qui sera communiqué prochainement. Mais de toute façon, il pourra dire exactement ce qui s'est passé. Et je constate aussi que la justice en est saisie et qu'une enquête judiciaire est ouverte.
Voilà en gros le mot d'ordre, on laisse la justice faire son travail. En attendant, Gérard Collomb sera en effet entendu par la commission des lois du Sénat. On l'a dit tout à l'heure, ce sera mardi prochain, en fin d'après-midi.
Laura Dulieu, merci. Gérard Collomb qui peut compter sur le soutien sans faille de sa collègue Nicole Belloubet. Devant les députés, la ministre de la Justice a condamné, je cite, les propos tenus dans cet hémicycle qui mettent en cause la bonne foi d'un ministre de la République. Ces insinuations ne sont pas acceptables, a conclu la garde des Sceaux. Dans l'actualité économique, il y a ce chiffre, 790 millions d'euros, le coût de la grève à la SNCF pour l'entreprise. Une grève en pointillé d'avril à juin, marquée par 37 journées d'arrêt de travail. 790 millions, c'est plus que les bénéfices engrangés par la SNCF l'an dernier. Bastien Roch, bonsoir.
Bonsoir.
Alors pourquoi la grève a-t-elle coûté si cher à l'entreprise ferroviaire ?
Essentiellement à cause d'une baisse de recettes. Les voyageurs qui pendant 3 mois ont renoncé à prendre le train, c'est autant d'argent qui ne rentre pas dans les caisses de la SNCF. 600 millions d'euros, c'est la principale cause. Même chose pour les entreprises qui ont renoncé à transporter leurs marchandises par voie ferrée, 60 millions d'euros. Ajoutez à cela les sociétés organisatrices du transport qui diminuent leur contribution, 110 millions d'euros. Mais il y a aussi les dépenses supplémentaires. Cela concerne surtout les mesures commerciales envers les usagers. Ça va du remboursement des billets à des mois d'abonnement offerts, 120 millions d'euros. Enfin, il y a les bus de substitution qui ont remplacé les trains bloqués par la grève, comptés 40 millions d'euros. Et là, grâce à votre calculatrice, Stanislas, vous allez me dire...
Oui, Bastien, ça ne fait pas 790, mais plutôt 930 millions d'euros.
Exactement, mais c'est parce que la grève fait aussi gagner de l'argent à la SNCF. Déjà, les employés ne sont pas payés pendant leurs jours de grève, ce qui fait 100 millions d'euros de retenue sur les salaires. Ensuite, moins de trains en circulation, c'est moins de coûts de fonctionnement, 40 millions d'euros d'économies, ce qui fait 140 millions au total. 930 moins 140, 790. Le compte est bon.
Bastien Roch, merci pour ce calcul. Le gouvernement a présenté ce matin son plan pour encourager une mobilité propre. Entendez par là des modes de transport les moins polluants possibles. Cela passe par le développement du covoiturage ou du vélo en ville. Mais il y a aussi dans ce plan la mise en place de zones à faible émission dans les 14 agglomérations françaises les plus polluées. Bonsoir Hélène Fromanty.
Bonsoir.
Zone à faible émission, de quoi s'agit-il exactement ?
Alors concrètement, c'est un territoire bien délimité où la circulation des véhicules les plus polluants est restreinte, voire interdite. Un dispositif qui a fait ses preuves dans plusieurs villes d'Europe, à Anvers, Prague, Londres ou encore Lisbonne. Au total, 227 zones où la pollution a diminué de 12 à 15%. En France, actuellement, il n'y en a que 2, à Paris et à Grenoble. L'objectif, c'est donc de rattraper notre retard. Et pour cela, Nicolas Hulot va donner carte blanche aux élus locaux.
Il faut que ce dispositif soit souple, qu'il puisse s'adapter aux réalités du terrain. Et donc c'est bien aux élus de définir le périmètre des zones à faible émission. C'est également aux élus de définir les catégories de véhicules qui doivent être concernés. Et c'est enfin aux élus de définir les plages horaires dans lesquelles on veut mettre en place ce dispositif.
L'État va de son côté mettre en place des systèmes de contrôle automatisés et de la vidéo-verbalisation. Contrôler, sanctionner, voilà la clé de la réussite selon l'adjoint au maire de Paris en charge des transports, Christophe Najdowski.
Vous avez 600 000 véhicules qui entrent chaque jour dans Paris et ça n'est pas avec nos 1000 agents municipaux que l'on va pouvoir contrôler efficacement l'entrée des véhicules dans Paris. Donc si nous voulons réussir la reconquête de la qualité de l'air, il nous faut ces moyens de contrôle efficaces.
Les 15 territoires les plus pollués de l'Hexagone devront déployer des zones à faible émission d'ici à 2020. Aix-Marseille, Nice, Lyon ou Strasbourg devront s'engager sur ce point dès la rentrée. Par ailleurs, toutes les agglomérations de plus de 100 000 habitants seront obligées d'envisager la création d'une telle zone.
Hélène Fromanty, merci. L'armée israélienne semble avoir entamé ce soir une nouvelle opération d'envergure à Gaza. Une opération qui serait une réponse à de violentes émeutes palestiniennes le long de la clôture qui marque la frontière. Il y aurait 3 morts côté palestinien. Marie Semelin nous appelle de Jérusalem.
Des avions et des chars israéliens ont visé des cibles militaires, selon l'armée, dans toute la bande de Gaza, des bombardements en riposte à des tirs qui ont visé les troupes israéliennes. Le ministère de la Santé à Gaza parle d'au moins 2 morts dans cet échange de tirs. De sources israéliennes, un soldat serait également blessé. Des chars sont en ce moment déployés autour de l'enclave par Israël. Israël qui demande aux résidents dans un rayon autour de 40 km de la bande de Gaza de rester à proximité des abris. On craint ici qu'une étincelle ne puisse déclencher une guerre malgré les médiations égyptiennes et l'implication des Nations Unies pour éviter que cette escalade ne dégénère en conflit.
Marie Semelin à Jérusalem. Au Cameroun, 4 soldats ont été arrêtés après la diffusion d'une vidéo de 3 minutes extrêmement violente devenue virale sur les réseaux sociaux. Elle montre 2 femmes et leurs 2 enfants exécutés à bout portant par des hommes armés portant un uniforme qui les accuse d'être des djihadistes. Les faits remontent au 11 juillet. Ils se sont déroulés dans l'extrême nord du Cameroun, une région proche du Nigeria où opère Boko Haram. Amnesty International a été l'une des premières ONG à affirmer qu'il s'agissait de militaires camerounais. C'est ce que nous explique la chercheuse Ilaria Allegrosi qui travaille pour Amnesty.
C'est franchement une des vidéos les plus horribles, choquantes que j'ai jamais vues dans ma carrière. J'avais vu dans le passé d'autres vidéos filmées également par des militaires camerounais et nigériens qui torturaient ou qui tuaient des personnes soupçonnées d'être membres de Boko Haram. Mais celle-là est vraiment horrible parce que ça montre justement l'exécution de 2 femmes avec leurs enfants, dont un bébé, de la part des militaires.
Dès la semaine dernière, vous disiez que vous aviez des preuves crédibles.
Oui, tout à fait. Nous nous sommes concentrés sur l'analyse des uniformes des soldats qui sont exactement celles de l'armée camerounaise et qui sont très différentes aussi par les uniformes portés par des soldats des pays voisins. Par exemple, le Tchad ou le Nigeria. Nous sommes concentrés sur l'analyse des armes, et ça, vraiment, on ne peut pas se tromper. Ce sont des armes caractéristiques de l'armée camerounaise. Ce n'est pas un cas isolé, et il s'inscrit dans un contexte bien plus large de violation des droits de l'homme systématique dans le cadre de la lutte contre Boko Haram, comme Amnesty l'a pu documenter dans au moins 3 rapports qui ont été publiés dans les 3 dernières années.
Ilaria Allegrosi, chercheuse sur l'Afrique centrale à Amnesty International, elle répondait à Valérie Crova. Une attaque au couteau en Allemagne cet après-midi dans un bus à Lübeck, dans le nord du pays. Il y a 1 blessé grave et plusieurs blessés légers, selon la police allemande, qui ne donne pas de chiffres précis. L'assaillant a été interpellé. On ignore pour l'instant ses motivations. Le Brexit au centre d'une réunion des 27 ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne aujourd'hui à Bruxelles. Ils ont pris connaissance du livre blanc britannique issu de la réunion de Chequers, un document qui compile les propositions de Theresa May pour un nouveau partenariat entre l'UE et le Royaume-Uni. La première ministre britannique a musclé son texte sous la pression des partisans d'un Brexit dur. À Bruxelles, on estime que beaucoup de questions restent en suspens. Pierre Benazé.
Pour les 27, le livre blanc des propositions britanniques contient plusieurs éléments qualifiés d'utiles et de constructifs. C'est le cas pour la perspective d'un accord de libre-échange, pour l'idée de règles communes pour l'environnement ou l'emploi, pour la coopération en matière de sécurité et de défense. En revanche, plusieurs autres points sont décrits par le négociateur en chef de l'Union européenne, Michel Barnier, comme posant des questions. Une façon polie de dire qu'il pose des problèmes, c'est en particulier le cas pour les règles en matière de pesticides et d'OGM, pour les règles douanières ou encore pour la volonté de ne pas inclure les services dans le futur accord, tout point qui pourrait menacer le marché unique européen. Michel Barnier.
Il y a parfois des points qui sont en contradiction avec les 27 chefs d'État de gouvernement. C'est le Royaume-Uni qui quitte l'Union européenne. Pourquoi l'Union européenne prendrait-elle le risque de fragiliser le marché intérieur, qui est son principal capital, de créer des charges supplémentaires pour les entreprises parce que le Royaume-Uni s'en va? Je ne vois pas de justification à cela. Si vous regardez bien le contexte géopolitique qui nous entoure, nous avons beaucoup de raisons de préserver le marché unique.
Et plus urgente encore est la question de la frontière irlandaise, car pour les 27, le livre blanc britannique n'avance pas de proposition pour un filet de sécurité qui garantirait l'absence de frontières dans l'île.
Pierre Benazé, correspondant de Radio France à Bruxelles. On termine ce journal avec la météo. 19 départements du quart sud-est sont en vigilance orange pour les orages ce soir. Le risque orageux restera présent demain des Alpes au nord-est, des pluies également dans le sud-ouest. Ailleurs, le ciel sera variable. Les températures minimales iront de 11 à 23 degrés de la Manche à la Méditerranée. Les maximales iront de 20 à 31 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun.